Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Parmi les chrétiens en France, on a l'habitude de se désoler de la déchristianisation de notre pays, voire de l'indifférence ou de la méfiance des Français à l'égard de la foi chrétienne. Un succès vient démentir ces réflexions, celui des parcours alpha. Créés dans les années 90 en Angleterre, les parcours alpha sont des dîners-débats autour de grandes questions de la vie, organisés dans des églises, des restaurants, voire des salles de spectacle. Depuis, 24 millions de personnes de par le monde ont suivi ce parcours, 24 millions de vies potentiellement changées. Alpha, quel succès ! C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Hélène Hébreau, vous êtes responsable des parcours Alpha Midi-Pyrénées, bonjour.
Bonjour.
Voilà, parlez bien près du micro. Claudie Drancourt, vous êtes responsable des parcours Alpha Couple à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas de Chézel, vous êtes avec nous donc depuis la région parisienne, si je ne me trompe pas, et vous êtes directeur d'Alpha France, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Hélène, bonjour Claudie.
Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être venus nous parler ce matin du parcours Alpha. Je le disais, le parcours Alpha, quand on est un petit peu déconfit par la configuration religieuse de la France ou quand on est attaché à la foi chrétienne et qu'on se désole que les Français ne s'y intéressent pas davantage, il suffit de s'intéresser au parcours Alpha pour avoir le moral remonté. Il faut dire aussi en introduction de cette émission que c'est la Saint-Valentin, on en parlera à la fin de l'émission, qui motive en partie cette émission le 14 février prochain. Puisqu'Alpha, et ça sera peut-être ma première question, Nicolas de Chézel, est-ce que le grand génie d'Alpha, on va prendre le temps de voir d'où vient cette grande aventure, ce n'est pas justement d'avoir su capter les signes des temps, se doter des outils de communication adaptés, quelle est un peu, selon vous, la recette Alpha qui fait qu'Alpha cartonne, comme disent les jeunes, autant?
Eh bien, je crois que, en fait, le grand génie d'Alpha, c'est de rencontrer les personnes, de se rendre à la rencontre des personnes, de les écouter, de les accueillir avec une grande fraternité, de leur faire sentir que c'est cette fraternité qui va ouvrir leur cœur et qui va les conduire à changer leur vie. Et finalement, les hommes et les femmes qu'on rencontre sont souvent bien seuls, sont souvent bloqués par des questions qu'ils ne savent pas où les poser. Et avec Alpha, ils rencontrent des hommes et des femmes qui les accueillent très gentiment, avec respect, qui leur apportent quelques éléments, mais sans leur bourrer le crâne, et qui finalement les fait cheminer doucement, à leur rythme, là où ils en sont.
Alors je vous propose, avant d'aller plus loin, qu'on écoute un extrait. C'est un des nombreux teasings qu'Alpha a fait. Là, en l'occurrence, c'est un alpiniste aventurier écrivain britannique, Bear Grylls, j'espère que je prononce correctement, qui a gravi l'Everest à 23 ans, rien que ça, et qui s'occupe d'une émission de télé-réalité, seul face à la nature en Grande-Bretagne. On va écouter ce teasing Alpha et puis on vous retrouve tout de suite après.
Que faut-il pour vivre une vie d'aventure ? La vérité, c'est que le premier pas est toujours le plus difficile. C'est celui qui demande le plus de courage. Mais j'ai appris à ne pas céder à la peur, à oser malgré tout. Ma foi chrétienne connaît parfois des hauts et des bas. Comme toute relation, elle fait face à des défis et des doutes. Mais cette foi m'a souvent éclairé sur des chemins obscurs, réchauffé sur des montagnes glacées et a renforcé ma fragile existence. Je me souviens avoir rampé au sommet de l'Everest et enlevé la neige de mon masque pour voir la courbure de la Terre à l'horizon. Mais trouver une foi simple qui booste ma vie, pour moi, ça a été ma plus grande aventure. Commencez la plus grande aventure. Explore Alpha.
Voilà, alors avec les images, en l'occurrence, ça serait mieux. Donc on voit ce Bear Grylls, qui est, on va dire, un homme costaud bien de son temps et qui fait un parallèle avec, les grandes aventures qu'il a vécues comme alpiniste et aventurier. Nicolas de Chazel, deuxième question d'introduction à ce sujet. Est-ce que vous êtes frappé au long de vos années de service au service d'Alpha, à la rencontre de tous ces gens? Vous disiez qu'en fait, souvent on vit avec des grandes questions et qu'on n'a pas de lieu pour les poser. Est-ce que dans le fond, tout le monde a soif comme ça de cette grande aventure, mais n'a pas d'espace pour la commencer?
Eh bien, on constate que les personnes qui viennent au parcours Alpha cherchent un lieu d'écoute, un lieu de rencontre, un lieu de fraternité. Et lorsque le climat de confiance est bien établi, alors ils osent poser des questions, ils osent exprimer leurs souffrances, ils osent exprimer leurs doutes, ils osent aussi accueillir, ils osent accueillir le témoignage des autres. On constate que oui, je ne sais pas si tout le monde est comme ça, je n'ai pas de jugement à porter, mais je constate que les milliers de personnes qui viennent au parcours Alpha, ce sont des personnes qui ont des questions, ce sont des personnes qui ont soif de quelque chose et qui ne savent pas très bien où aller boire. Et je crois que, en l'occurrence, les parcours Alpha sont un lieu où ils peuvent s'abreuver de fraternité, mais aussi s'abreuver de paroles de vérité, et nous l'espérons, s'abreuver de l'Esprit Saint.
Alors j'aimerais que vous nous racontiez, pardon pour ceux qui connaissent par cœur l'histoire, mais je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça, la genèse de ces parcours Alpha. Il faut dire que ces parcours Alpha, on en parlera après, sont des parcours œcuméniques, c'est-à-dire donnés dans toutes les églises chrétiennes, donc multiconfessionnelles, comme on dit autrement. Ces parcours Alpha sont nés en Angleterre dans les années 90. On cite souvent un Nicky Gamble, mais alors j'ai vu qu'en fait le vrai fondateur serait un certain Charles Marnham. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cette aventure?
En fait, c'est une petite paroisse anglicane au cœur de Londres qui était en train de mourir avec une grande dignité, comme les Anglais savent faire, et leur pasteur a décidé d'inventer quelque chose pour retrouver vie. Et il a cherché plusieurs formules, et c'est finalement la formule du repas convivial qui a été couronnée de succès, et il a donc mis en place une formule d'accueil sur une dizaine de repas conviviaux pour donner envie aux personnes de rencontrer des chrétiens d'abord, et puis d'entendre la parole de Dieu, et puis de pouvoir poser des questions, échanger, et finalement faire un véritable chemin spirituel. Cette petite paroisse qui était en train de mourir avec peut-être une centaine de cheveux gris, de têtes grises, eh bien aujourd'hui c'est une des paroisses, certainement la paroisse anglicane de Londres, la plus énergique, la plus florissante, avec des milliers de participants, et elle rayonne sur toute l'Angleterre et maintenant sur le monde entier.
Alors la formule choc que vous avez décrit, alors en choc elle a peut-être rien de si extraordinaire que ça, c'est donc ça commence toujours par un dîner. Après, il y a un topo, qui est souvent un topo témoignage, c'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement. Et après, donc, il y a des temps d'échange en petits groupes qui se veulent vrais, fraternels, confidentiels. Expliquez-nous ce trio, Nicolas de Chazel.
En fait, la fraternité est vraiment le moyen, l'outil de base que nous, les hommes, nous connaissons pour entrer en confiance, pour entrer en communication et pour ouvrir notre cœur. Et donc, on met vraiment le paquet sur la convivialité, l'accueil, le respect de chacun. On ne va pas les bombarder de questions inutiles, de questions qui peuvent être embarrassantes. On va accueillir chacun, on va lui montrer combien on est heureux qu'il soit là. Et puis, accueilli ainsi, fraternellement, on lui donne une intervention qui est à la fois un petit enseignement, mais pétri de témoignages, de façon à bien montrer que ce qu'on enseigne, et ce qu'on enseigne, c'est basique, c'est tout à fait basique. On leur parle de Jésus qui aime, de Jésus qui sauve, de Jésus à qui on parle dans la prière.
C'est basique pour vous, hein, c'est pas basique pour tous les Français, mais allez-y, continuez.
Oui, mais on utilise des mots basiques et des thèmes basiques.
D'accord, on comprend mieux.
On va pas compliquer les choses, mais on leur donne des outils de base pour découvrir ce Jésus qui les aime et qui les sauve, et on va leur donner envie de mieux connaître ce Jésus qui aime et qui sauve. Et puis, au milieu du parcours, il y a un temps fort qui est vraiment empli d'Esprit Saint, où vraiment on leur propose, s'ils le souhaitent, d'ouvrir leur cœur et d'accueillir Jésus dans leur vie. Et on constate que au moins la moitié des participants vivent une véritable expérience, je dirais, d'amour avec Jésus. Leur vie change. C'est-à-dire qu'après ce week-end, ils reconnaissent que leur vie est différente. Ils ont un nouveau visage, ils sont souriants, ils ont compris qu'ils sont aimés, ils sont connus, ils sont portés par la grâce de Dieu, ils sont pardonnés et ils ont cette chance devant eux de vivre une vie heureuse. Et donc je pense que les ingrédients, oui, c'est cette fraternité, c'est ces enseignements de très simples, pétris de témoignages, avec cette occasion de plonger dans la relation avec Jésus, et puis cette occasion de groupe de partage où ils vont pouvoir échanger, dire ce qu'ils ont sur le cœur, poser toutes les questions sans jugement, sans remarque, sans être catalogués. Ils vont être respectés et peu à peu, leur corps s'ouvrant, ils vont poser les vraies questions, les questions importantes. Et au sein du groupe, ils vont peu à peu trouver des réponses à ces questions.
Nicolas Chézel, dans les années 90, donc Nicky Gamble dans sa paroisse anglicane moribonde, vous disiez avec donc qui mourait avec décence comme ça faire les Anglais. Vous avez beaucoup d'humour, vous êtes probablement peut-être un petit peu britannique, mais comment, je sais pas, est-ce que ce Nicky Gamble a rencontré un milliardaire et un génie de l'organisation? Comment passer d'une paroisse à 24 000 millions de personnes maintenant dans le monde qui ont vécu ces parcours? J'ai vu que c'était 25 000 par an en France, dans 1300 lieux différents. Expliquez-nous un peu cette aventure, parce que des bonnes idées, il y en a beaucoup, même chez les chrétiens, ou peut-être, enfin surtout, ou en partie, bref. Mais de là à arriver à créer une espèce d'international comme ça, de l'évangélisation, il y a un pas.
Oui, en fait, Nicky Gamble, à l'origine, est un avocat. C'est un homme fort intelligent, qui a du réseau, qui a de l'entre-gens, qui sait parler, qui sait écrire, et qui a été touché, qui a vraiment reçu la grâce du Seigneur, qui a été converti lui-même en rencontrant d'autres chrétiens dans cette église, dans cette petite paroisse anglicane. Et il a eu la grande sagesse quand il a vu qu'il avait une formule qui portait du fruit localement dans sa petite paroisse. Il a eu la grande sagesse de stabiliser la formule et d'écrire. Il a écrit des ressources pédagogiques, il a en quelque sorte formaté la formule de façon à ce qu'elle soit reproductible. Et il l'a ensuite proposée à ceux qui le souhaitaient, d'abord chez les autres églises anglicanes, puis chez les autres églises protestantes, puis chez les autres églises chrétiennes. Et c'est peu à peu toutes les églises qui ont pu s'approprier cet outil tout simple qui est en fait utilisable par toutes les églises, tellement il est simple, parce qu'il est uniquement basé sur la rencontre avec le Christ qui sauve et qui ouvre une perspective nouvelle.
Alors aujourd'hui, Alpha s'est développé, il y a de multiples portes d'entrée au sein d'Alpha. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera davantage donc de Alpha couple, bref en tout cas des propositions à l'égard des couples, puisqu'il y a aussi Alpha duo, vous nous expliquerez tout ça, Claudie Drancourt. Aujourd'hui, expliquez-nous les grandes portes d'entrée, peut-être pour ceux qui sont intéressés ou qui voudraient monter des parcours. J'ai vu qu'il y avait parcours Alpha classique, Alpha jeune, campus, donc toutes les formules familiales, il y a même un Alpha prison, et j'ai vu que maintenant il y avait aussi worship central, worship voulant dire louange en anglais. Expliquez-nous les différentes portes d'entrée d'Alpha et pourquoi cette multitude de propositions.
En fait, le parcours de base est un parcours de première annonce, de rencontre du Christ, d'accueil du Christ. C'est ce qu'on appelle en France Alpha classique. C'est ce parcours à base de 10 soirées plus un week-end. Ce parcours, appelé Alpha classique en France, est contextualisé ensuite en fonction des personnes à qui on parle. Ce même parcours, je dis bien ce même parcours, peut être donné à des jeunes sous une forme différente, ce sera Alpha Jeune. Il peut être donné à des étudiants, des jeunes professionnels, ce sera Alpha Campus. Il peut être donné dans un milieu professionnel, ce sera Alpha Pro. Il peut être adapté au milieu carcéral, ce sera Alpha Prison. Mais ce sera le même parcours. C'est ce parcours de première annonce, de toute première annonce, qui donne l'occasion de rencontrer Jésus. Et puis par ailleurs, je dis bien par ailleurs, il y a une série de parcours qui s'adressent aux couples et aux familles pour les aider à creuser leur relation de couple et leur faire découvrir que leur quête de bonheur, eh bien, elle trouvera la réponse en accueillant Dieu au cœur de leur famille et au cœur de leur couple. Donc il y a une série de parcours qui s'adressent aux couples et aux familles. Vous avez cité duo, couple, parents de jeunes enfants, parents d'adolescents. Donc suivant un autre schéma pour leur faire découvrir Dieu au cœur de leur famille.
Nicolas Chesel, avant qu'on fasse une première pause musicale et puis qu'on laisse un peu plus de place à nos autres invités pour donner à voir ce qui se vit, par exemple, dans un parcours alpha couple, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'œcuménisme ? M'est revenu en tête en préparant cette émission, cette rencontre qui a eu lieu en juin dernier, c'était à Rome, à l'occasion de la Pentecôte. Le pape François avait invité les chrétiens du renouveau charismatique à venir fêter leurs 50 ans, 60 000 personnes. Le pape François qui avait dit la chose suivante: l'unité des chrétiens est aujourd'hui plus urgente que jamais, une unité dans la prière et dans l'action pour les plus faibles, mais aussi le pape a avancé incité les personnes présentes à la rencontre à avancer ensemble, à travailler ensemble, à s'aimer. Est-ce que c'était l'expérience d'Alpha que de cet amour et de cette action qui traverse les différences entre les chrétiens?
En fait, à travers Alpha, on vit une expérience d'unité absolument exceptionnelle. Moi, je suis amené à donner de très nombreuses formations sur toute la France et même souvent à l'étranger. Et j'ai devant moi des prêtres et des pasteurs. Et j'ai donné des formations devant toute une assemblée, 150 pasteurs des assemblées de Dieu. Et à d'autres moments, je suis amené à parler à des prêtres lorsque on me demande de présenter Alpha dans des diocèses. En fait, on vit cette unité qui est totalement basée sur le Christ. Nous n'annonçons que le Christ. Nous ne cherchons pas à faire une avancée dans une église ou dans une autre. Nous voulons annoncer le Christ qui aime et qui sauve et qui est miséricordieux. Et nous proposons ensuite à ceux qui veulent poursuivre leur chemin de rejoindre l'église où ils se sentent accueillis et où ils se sentent bien. On ne cherche pas du tout à discriminer l'une plutôt que l'autre. Nous basons vraiment sur cette personne du Christ qui sauve et qui aime et qui est le cœur de l'œcuménisme. Et je retiens encore des paroles magnifiques du cardinal Schönborn qui disait il y a quelques années à Londres, l'œcuménisme c'est d'apprendre à se connaître, de reconnaître nos diversités, de nous respecter dans nos diversités, d'apprendre les uns par les autres et enfin de nous réjouir ensemble que nous sommes ensemble aimés de Dieu. Et c'est ça l'œcuménisme, cette belle diversité dans l'unité de l'amour de Dieu. Oui, c'est ça que nous vivons avec les parcours Alpha.
Eh ben, merci beaucoup Nicolas Chesel. On va faire une première pause et puis on va continuer à découvrir cette grande aventure des parcours Alpha avec en ligne de mire le 14 février prochain et la Saint-Valentin.
Merci.
Alpha, quel succès ! C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec autour du plateau Hélène Hébrault, responsable des parcours Alpha Midi-Pyrénées, Claudie Drancourt, qui est responsable des parcours Alpha Couple à Toulouse, et Nicolas Chézel, directeur d'Alpha France, qui était avec nous au début de cette émission pour nous présenter cette grande aventure. Alors on s'est dit, puisque l'on a en ligne de mire le 14 février prochain, et donc la Saint-Valentin autrement, grande initiative lancée par les parcours Alpha et repris par un certain nombre de mouvements d'église, on en parlera à la fin de cette émission, on s'est dit qu'il était de bon ton donc de parler particulièrement des parcours à l'adresse des couples et des familles. Ce que j'ai compris de ce que nous disait Nicolas Chézel, c'est qu'en fait, il y a, on va dire, les grandes portes d'entrée de ces parcours alpha dits classiques, qui sont des parcours d'accompagnement où on part de grandes questions existentielles et puis derrière on explique ou on présente la foi chrétienne sans chercher forcément à convaincre. Et il y a donc un autre grand volet, c'est d'être présent en fait à l'amour humain, d'accompagner l'amour humain, quel que soit, on va dire, son stade de développement, si je puis parler ainsi. Présentez-nous représentez-nous ces grandes portes d'entrée, Claudie Drancourt, que sont les différents parcours pour les couples.
Alors pour les couples, nous avons le parcours Alpha Couple qui s'adresse à des couples qui soient mariés ou non, chrétiens ou non. C'est là que nous n'allons pas directement faire une action d'évangélisation. On n'est pas là pour parler du Christ en premier, mais pour susciter le désir justement du Christ et faire en sorte que les gens prennent conscience qu'il y a que Dieu est au-dessus, est à l'origine de leur amour. Mais c'est dans le couple que va se faire le travail. Le cheminement va se faire à deux. Nous ne sommes pas là pour enseigner, ce n'est pas un parcours de théologie ou de spiritualité conjugale. C'est un parcours très concret pour développer vraiment, développer la relation de couple, pour la consolider, pour l'enrichir, voire restaurer quelquefois pour les couples qui traversent des difficultés. C'est-à-dire que c'est un parcours qui s'adresse à des gens qui ont ou non des difficultés, donc comme j'ai dit, chrétiens ou non, mais on va vraiment travailler au cœur du couple, au cœur de l'humain, de la vie du couple.
Alors, il y a une formule pour ceux qui ne sont pas encore mariés, donc ça s'appelle aussi Alpha Duo.
Alors, Alpha Duo, bien sûr, s'adresse à des couples qui ne sont pas encore mariés, pas encore engagés, qui réfléchissent à leur relation de couple, qui veulent essayer de trouver les pistes essentielles pour baser vraiment leur cheminement de couple sur du rock. Voilà.
Voilà, donc pas de moralisme, c'est...
Pas du tout, du tout.
Pas de moralisme chez Alpha.
Pas de moralisme du tout, et en tout cas, une incitation à réfléchir et aller au plus profond de la relation du couple et trouver l'essentiel pour durer dans la vie de couple.
Comment mieux communiquer en couple, comment mieux se comprendre et s'aimer, comment mettre en place des moments de qualité, c'est quelques-unes des questions que vous proposez lors de ces parcours Alpha Couple. Donc ça consiste en 7 soirées, si j'ai bien compris. Mmh. Ça commence toujours par un dîner, il faut pas se stresser avec le prix du dîner parce que les organisateurs prennent ça en charge même s'ils demandent une participation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns des grands thèmes? Et puis après, on va essayer de creuser... aucun de nous n'est en couple autour de ce plateau, mais vous allez nous donner quelques outils, quelques extraits d'un topo qui est donné sur l'art de la communication. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donnez-nous les grands thèmes d'abord de ces parcours Alpha Couple.
Alors nous commençons par une première soirée sur les fondements de notre engagement, parce que le parcours Alpha Couple s'adresse à des couples mariés qui ont pris un jour un engagement de mariage, ou certains sont simplement pacsés, mais en tout cas qui sont engagés, qui ont des enfants. Donc il s'agit de couples déjà ayant 2 ou 3 ans de vie de couple, hein, des couples déjà expérimentés. Alors, la première soirée, c'est vraiment les fondamentaux de l'engagement. On va repartir au départ de notre vie de couple, pour prendre conscience du chemin, du démarrage du chemin de chacun. Et prendre conscience de l'importance, dès le départ, de comprendre, de se tourner vers les besoins de l'autre, d'essayer de comprendre la différence entre les deux et de s'orienter vraiment vers la recherche des besoins de l'autre, de quoi l'autre a besoin.
Alors Hélène, peut-être citez-nous juste les intitulés et puis après du coup on détaillera seulement cette étape qui est l'art de la communication.
Oui, alors c'est les fondements, au départ, c'est les fondements du couple. Et puis, en deuxième, on a l'art de la communication. C'est la deuxième soirée qui est fondamentale parce que grâce à cet art de communication, les couples vont pouvoir travailler tout au long du couple, cette communication. La soirée 3 est autour de la gestion des conflits qui mobilise tout couple. La soirée 4 est une soirée qui va nous amener vers le pardon à donner ou le pardon à recevoir pour pouvoir repartir, rebondir.
Et je vais citer les trois derniers parce que j'aimerais qu'on je vois le temps qui file.
D'accord.
L'impact de la famille, une sexualité de couple épanouie et donner et recevoir de l'amour. Alors si on se penche sur l'art de la communication, imaginons on fait un arrêt sur image, c'est un topo qui dure en général 2 heures, donc on va essayer d'être plus court. Vous aidez à prendre conscience, vous aidez à ce que les couples prennent conscience que la communication ne va pas de soi, pardon. Ça paraît simple, mais ça va mieux en le disant. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent à parler. Rappelez-vous, là, c'est un extrait de l'apôtre Jacques. Une règle d'or, la personne la plus importante à écouter, c'est mon conjoint. Est-ce que ça n'est pas une évidence pour la plupart des couples, en fait, que de se rendre compte que la communication n'est pas aussi simple que ça?
Je pense que beaucoup de personnes ont l'impression de savoir très bien communiquer. Peu de personnes arrivent en disant « nous, c'est pas la communication qui pose problème ». Ça peut arriver, mais on a tous l'impression de savoir. Or, on a, comme on disait, on a deux oreilles, c'est pour écouter, et une bouche. Donc, on doit écouter deux fois plus que ce qu'on ne parle. Et le travail va se porter de façon plus importante sur l'écoute que sur l'expression, la communication, enfin l'expression parlée. Et on va prendre conscience vraiment que ça ne va pas de soi du tout, que l'art de la communication est extrêmement complexe. Il y a des éléments psychologiques, des éléments familiaux, des éléments culturels qui vont nous mettre des bâtons dans les roues pour bien s'entendre.
Est-ce que vous pouvez dire peut-être l'importance? Pourquoi est-il si important de savoir communiquer? Dans votre topo, il est indiqué que quand on communique correctement, eh bien, on se sent valorisé, on se sent en confiance, on a le sentiment de compter, d'être soutenu, se sent aimé. Il y a beaucoup de choses qui passent en fait par une écoute ou par une communication juste.
Je crois que chacun de nous a un besoin vital de se sentir reconnu, considéré et respecté par la personne qui s'intéresse fortement à ce qu'on vit. Et cette reconnaissance va vraiment nous donner de la confiance. Et cette confiance va alimenter notre relation d'amour.
Alors, si on se penche maintenant sur les obstacles, vous sériez un certain nombre de filtres ou de mauvais réflexes. Si on commence par les filtres, je vais en citer quelques-uns. Je vais vous laisser les détailler peut-être un petit peu, au moins en choisir un. Il y a le filtre de nos souvenirs, de nos dispositions d'esprit, du manque d'intérêt qu'on peut avoir aussi, de l'environnement autour de nous. Peut-être pouvez-vous insister sur le filtre des préjugés. Qu'est-ce que vous entendez par ce filtre des préjugés, Claudie Drancourt?
Eh bien, moi, je pense qu'on peut avoir chacun de nombreux préjugés quand on... qui vont bloquer notre attention et notre compréhension. Je connais de nombreux maris, dès que leur femme va évoquer leur belle-mère, enfin, l'écoute va être de mauvaise qualité. Déjà, le blocage est déjà là. Donc il va falloir contourner avec beaucoup d'habileté et d'humour. On va apprendre des petites techniques, par exemple, pour contourner des blocages. On va les mettre en évidence, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas souvent mis sur la table. Il va falloir reconnaître chacun les blocages, les retrouver et trouver des petites clés pour savoir les contourner.
Les préjugés, ça peut être aussi donc des préjugés sociaux, culturels, qu'on peut avoir à l'égard parfois de son conjoint même.
Voilà. Et quelquefois, on reste bloqué sur une blessure, un malentendu, et qu'on n'a jamais dépassé, qui fait que l'écoute est restée bloquée à ce moment-là. Voilà, souvent un conflit ou bien une attitude.
Alors ça, c'est pour les filtres. Si on se penche sur les mauvais réflexes, vous avez l'air de dire, je pense qu'un certain nombre de personnes se reconnaîtront, peut-être plus les hommes. On essaye de rassurer ou alors on donne des conseils, on détourne la conversation, on interrompt. Expliquez-nous ces mauvais réflexes et picorisons un ou deux.
Oui, mais par exemple, lorsque j'écoute mon conjoint, je peux avoir une attitude rassurante en disant « c'est pas grave, tu verras, tout va s'arranger ». Et souvent, celui qui a tendance à rassurer, il veut être réconfortant, il veut être positif, mais en fait, il va souvent pousser l'autre à enfouir son inquiétude et sa souffrance. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir envie de s'exprimer parce qu'il connaît déjà la réaction de son conjoint. La réaction entre guillemets, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ce qui se passe, c'est que la personne qui veut exprimer quelque chose ne se sent pas vraiment écoutée jusqu'au bout. Donc il y a celui qui rassure, il y a celui qui va tout expliquer. Mais ma chérie, c'est pas grave, on va téléphoner au professeur. Ta mère est malade, mais c'est pas grave, je vais téléphoner au professeur Duchemol, il va tout expliquer. Et puis ta maman va lui dire.
On s'en sent le vécu quand même. Hein,
voilà. C'est... Alors qu'en en fait, la personne, elle veut parler pour être entendue et apaisée, tout simplement. Elle ne cherche pas forcément des explications.
Voilà. Alors, donc, j'aimerais aussi que vous insistiez sur un obstacle. Je pense que tout le monde pourra se reconnaître là-dedans. C'est interrompre.
Oh, alors celui-là, celui qui interrompt tout le temps. À peine je commence à parler, d'abord, il y a celui qui détourne toujours la conversation sur lui. Ah ben c'est comme ma grand-mère, ah ben moi, et puis c'est ma belle-mère, elle dit toujours ça, et c'est comme ceci, c'est comme moi. Et puis la conversation est complètement détournée, et celui qui veut parler, eh bien, il n'a pas sa place. On dit qu'en moyenne, on dit que on est interrompu, on interrompt au bout de 17 minutes. On n'est pas capable d'écouter plus de 17 minutes.
Effectivement, 17 minutes, ça fait déjà rêver beaucoup de monde. Hein.
Oui.
Est-ce que vous avez d'autres obstacles que vous citez ? J'imagine qu'on a aussi nos habitudes familiales ou nos traits de caractère qui font qu'on a une manière d'écouter ou de savoir communiquer qui est très variable.
Dans certaines familles, on ne s'exprime pas, on n'écoute pas. Enfin, c'est surtout dans l'expression. Certaines familles sont des familles de taiseux. Où on enfouit les sentiments, on ne les partage pas. Et ça devient une habitude. Et lorsqu'on arrive dans la vie de couple, on conserve ses habitudes. Et quelquefois, c'est tout un apprentissage pour savoir identifier nos émotions, ce qu'on ressent, et les exprimer. Et ça peut être vraiment des habitudes familiales. Soit parce que la famille est taiseuse et que c'est une famille qui ne s'exprime pas beaucoup, soit aussi parce que c'est une famille dans laquelle on n'a jamais été écouté. Et lorsqu'on n'est pas écouté, on finit par se taire et perdre l'envie de parler.
Alors, puisqu'Alpha est là pour mettre, j'allais dire, du baume au cœur, mais plus que ça, pour réveiller la vie et l'amour au cœur de tous ces couples, évidemment, vous n'êtes pas sans donner des solutions dans cet art de communiquer. Donnez-nous quelques-uns des grands principes que vous donnez à ces couples pour écouter efficacement.
D'abord, je veux insister sur le fait qu'on ne donne pas un enseignement. Hein. C'est vraiment du pratique de la vie de tous les jours. Alors, on donne des petites clés.
Et en général, vous parlez aussi à la première personne lors de ces topos.
Oh, bah oui, parce que nous sommes des témoins avant tout. Donc, on accepte de s'abandonner complètement dans ce témoignage.
Voilà,
qu'on retravaille chaque fois.
La précision est importante parce que là, je ne vous demande pas l'exercice. Mais...
Non, voilà, on est vraiment dans le témoignage.
Alors, ces principes pour écouter.
Alors, une petite clé, par exemple, c'est un petit truc, je vais essayer de le dire très très vite, lorsqu'on communique, parce qu'on fait des jeux et c'est très drôle. Et dans les exercices que font les couples en tête à tête, je dis bien que le travail se fait sur des tables d'amoureux en tête à tête, comme ils sont au restaurant. C'est-à-dire que rien n'est partagé avec les autres couples. C'est important parce que les gens pensent qu'ils vont devoir partager avec d'autres leur vie de couple. Ça n'a rien à voir. Donc le travail se fait à l'intérieur de chaque couple. Et les exercices doivent se faire dans l'humour. Ils sont à la fois drôles, mais on ne peut pas éviter d'aller au plus profond. C'est ça qui est très très bien fait. La pédagogie est merveilleuse. Alors un petit truc par exemple pour apprendre à s'écouter efficacement. On leur donne une pomme. Celui qui va parler prend la pomme dans la main. Et en aucun cas, l'autre ne doit interrompre tant que celui qui parle a la pomme. Alors il va raconter ce qu'il a envie de raconter. En essayant de dire, et ça on l'apprend, on apprend à faire ça, en essayant d'expliquer ce qu'il a à dire, mais en précisant aussi ce que je ressens, ce que j'éprouve. On va aller jusqu'au plus profond de son cœur. Ce n'est pas que des faits, mais c'est aussi le ressenti qu'on va exprimer. Lorsque j'ai fini de parler, quand j'ai la pomme dans la main.
Je la mange et
non,
je reprends une deuxième pour continuer à parler.
Oui, tu en as pas fini. C'est moi qui décide de donner la pomme à mon conjoint. Pardon, il faut...
Ah non, allez-y, je vous en prie.
Je décide à ce moment-là, quand j'ai fini entièrement de parler, même s'il y a un silence, on respecte les silences. L'autre respecte les silences et n'interrompt jamais. Quand je pense que j'ai vraiment terminé de tout dire, je donne la pomme à l'autre. Et l'autre va essayer de reformuler ce qu'il a entendu. Pas seulement les faits, mais en essayant d'avoir décrypté les sentiments et le ressenti. Par exemple, « Ah oui, si j'ai bien compris, tu es en colère parce que l'autre jour, tu as compris, tu pensais que je n'ai pas pensé à toi, je t'ai oublié pour telle et telle raison. Ou si j'ai bien compris, voilà pourquoi tu étais triste l'autre jour. » Celui qui parlait après reprend la pomme et peut dire, enfin non, plutôt on lui donne, il reçoit la pomme à nouveau et peut dire, tu n'as pas tout à fait compris, il va reformuler. Et l'autre va reformuler jusqu'à ce que la compréhension soit parfaite.
Alors ça, c'est un des petits trucs. Donc accorder toute son attention à notre conjoint, ne pas l'interrompre, comprendre son point de vue, prendre acte de ses sentiments, etc. Et puis il y a un autre grand volet donc, de ce topo sur l'art de la conversation, c'est d'apprendre à exprimer ses sentiments.
Oui. Alors, vite, vite, je vous dis aussi qu'un grand, grand, grand volet et qu'on exprime dès le départ, c'est apprendre à prendre un temps de couple de qualité, le plus souvent possible de façon régulière et marquée dans l'agenda. Et on leur apprend pendant toute la durée du parcours à utiliser ce temps de couple, pas simplement pour se dire « Ah, ben, le train a du retard » ou « T'as pris le pain ce matin » ou « Bien sûr, ça, c'est de la conversation quotidienne », mais un temps de couple de qualité qui va au plus profond des ressentis et des pensées. Donc ça, c'est vraiment une clé qu'on va apprendre pour avoir un outil qui va durer toute la vie.
Et alors, sur l'expression des sentiments,
Là aussi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, beaucoup n'ont jamais même identifié ce qu'ils ressentent. Donc, on va apprendre d'abord à essayer de les trouver, ces sentiments, de dire pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis maussade, pourquoi je suis désagréable avec toi. Et ça, c'est un travail. C'est pour ça que ça dure, c'est pas seulement un week-end, un parcours Alpha Couple. Si ça dure 7 soirées, c'est parce que pour qu'un travail se fasse, pour que vraiment un changement s'opère, il faut du temps. Et entre chaque soirée, on demande un petit travail, une petite soirée de temps de couple aux personnes pour continuer à travailler.
Voilà, bah bravo, vous donnez envie de prendre du temps. Je pense que tout le monde va se précipiter.
J'espère, il y a un parcours qui commence le 11 mars à Toulouse.
Voilà, le 11 mars. Et puis si vous les retrouvez, on va faire une deuxième pause avant de parler un petit peu de la Saint-Valentin autrement. Dans la dernière partie, rendez-vous aussi proposé par les Parcours Alpha et puis par un certain nombre de mouvements chrétiens. Ils sont au nombre, je crois, d'une demi-douzaine. Le Clair, Amour et Famille, Fondatio, Canard, etc. Si vous voulez retrouver les parcours, et il y en a même beaucoup dans notre région, vous allez sur le site internet des Parcours Alpha, www.parcoursalpha.fr. Il y a une rubrique où vous voyez une carte de France et après vous pouvez zoomer et trouver un Parcours Alpha près de chez vous, quel que soit le lieu, on va dire, ou quelle que soit la confession des organisateurs. C'est toujours le même parcours et vous serez probablement toujours le bienvenu. parcoursalpha.fr. On fait une deuxième pause et on vous retrouve tout de suite après.
Te alabamos, te adoramos, te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te damos gracias
por tu inmensa gloria. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Alpha, quel succès! C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc les parcours Alpha pour ceux qui nous prendraient en cours de route. Ce sont ces parcours donnés donc par de multiples églises chrétiennes, quelle que soit leur confession, nées dans les années 90 dans une église anglicane en Angleterre, et aujourd'hui parcours suivi par plus de 24 millions de personnes à travers le monde. C'est près de 25 000 personnes par an en France, et puisque parcours Alpha n'est jamais à court d'idées, est né il y a maintenant, je crois, 3 ou 4 ans, donc la Saint-Valentin autrement, à l'occasion du 14 février prochain, proposée par de multiples mouvements, ou repris par d'autres mouvements, Amour et Vérité, Cana, les équipes Notre-Dame, le Clair Amour et Famille, les centres de préparation mariage, Fondatio et autres. Dites-nous quelques mots avant, Hélène Hébreau, sur la Saint-Valentin. Qui était Saint-Valentin ?
C'est difficile à savoir parce qu'il y a 3 Saint-Valentin qui ont été répertoriés, mais bon, ce qui était essentiel de retenir, c'est qu'il y avait des fêtes païennes absolument débridées et qui ont été dénoncées par un pape en 495. et qui a décidé, c'était entre le 13 et le 15 février, et qui a décidé de pointer la date du 14 pour remplacer ces fêtes païennes par une fête qui serait en l'honneur de Saint-Valentin. Saint-Valentin est un martyr du 3e siècle qui aurait eu à qui l'empereur de Rome a reproché qu'il mariait les chrétiens alors que lui l'avait formellement interdit. Donc il a été...
Pourquoi est-ce qu'il l'avait formellement interdit?
Il voulait récupérer tous les jeunes gens pour la guerre, et spécialement les chrétiens certainement. Donc c'était une façon d'éliminer...
Un martyr de l'amour donc.
Voilà, qui lui convenait très bien. Donc Valentin, en cachette, continuait à marier les chrétiens. Et donc il a été, pour cette raison, il a été martyr et il a été exécuté, voilà.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un enjeu de spiritualisation de cette fête? La Saint-Valentin, pour beaucoup, c'est vu comme une fête commerciale. J'ai vu que Jean-Claude Kaufmann avait écrit un livre sur la Saint-Valentin parce qu'il voulait justement aider à ce qu'on reprenne conscience de l'importance de cette fête. Et il a fait un peu un flop avec son livre. En tout cas, il s'en désole. C'est un article que j'ai trouvé dans le journal La Croix. Est-ce qu'il y a un enjeu pour vous, tout comme Noël peut-être, même si la comparaison est un peu forte, mais Hélène Hébreau?
Il me semble qu'il y a un enjeu. D'ailleurs, dès l'origine, il y avait un enjeu, c'est de passer du paganisme au christianisme et du matériel au spirituel. Bon, la Saint-Valentin, ça peut être un cadeau, ça peut être un restaurant. Ben justement, on a embrayé sur le restaurant et on a pensé que ça pouvait être un moment en couple, dans une plus grande intimité, où on peut se parler en vérité.
Voilà, donc c'est un temps de rupture.
Un temps de rupture du quotidien.
Un temps de qualité que vous offrez. Donc c'est quoi? C'est une espèce de mini soirée alpha, c'est-à-dire il y a un dîner et on donne quelques outils au couple, mettez-nous en bouche, qu'est-ce qui est proposé en fait?
Il est proposé des questionnaires qui sont en quelque sorte pour tester la qualité des relations du couple, et que certainement avec beaucoup d'humour, pas toujours sérieux, mais qui amène un petit peu vers les problématiques que l'on retrouve dans les soirées de l'Alpha Couple. Une sorte de mise en bouche pour ceux qui seraient tentés par un approfondissement plus grand et par suivre les soirées de l'Alpha Couple ensuite.
Voilà, je sens que ça va plaire à ces messieurs. Là, on fait une espèce de benchmarking sa vie de couple. On passe ça au grill.
Au grill, mais toujours avec légèreté et humour, de façon à ne blesser personne.
Alors, cette Saint-Valentin autrement, j'avais quand même une petite question, peut-être une question piège, c'est que j'ai vu que ça existait depuis 2 ou 3 ans. En 2017, je suis tombé sur un article du journal Famille Chrétienne qui racontait qu'il y avait 24 paroisses en France qui avaient organisé cette Saint-Valentin autrement. 24 à l'échelle de la France, ça fait pas beaucoup.
Non.
Ça tousse un peu à la Saint-Valentin autrement. Pourquoi en fait? Parce que de fait, c'est vu comme étant tellement commercial que dans le fond, ça intéresse pas tant que ça les gens. Comment vous expliquez un peu cette...
Comme vous disiez tout à l'heure, on pouvait faire de Noël rien que le Père Noël, et ne plus s'intéresser à l'origine chrétienne de la fête. Non, c'est recentrer la fête. Ça a été déclaré fête des amoureux au XIVe siècle. Alors, bon, voilà quoi. Depuis le XIVe siècle, on peut continuer à dire que c'est la fête des amoureux et à essayer d'approfondir la relation du couple.
Voilà, donc c'est le 14 février prochain, cette Saint-Valentin autrement, proposée donc par 9 mouvements chrétiens, je ne vais pas tous les reciter, qui attirent donc quelques milliers de couples quand même chaque année, pour sortir de la routine, se poser, parler de toi et de moi, de nous dit, et de notre couple, dit le site internet, profiter d'un espace pour parler d'hier et d'aujourd'hui, et puis partager surtout en profondeur avec bienveillance et vérité, le tout autour d'un bon dîner. Et les photos en tout cas donnent envie, vous mettez le paquet pour faire en sorte que les couples se sentent bien accueillis. Pour finir cette émission, on peut redonner quelques conseils pour pratiques pour la suite. Donc ce site internet parcoursalpha.fr, très bien fait sur lequel vous pouvez trouver donc une carte de France et un renvoi vers les différents parcours qui sont donnés par les différentes églises. Et puis, Claudie Drancourt, vous vouliez qu'on insiste à la fin de cette émission. Il y a deux parcours qui commencent à Toulouse. Alors, pardon pour tous ceux qui habitent loin. Ils trouveront les autres adresses, mais Claudie est à Toulouse. Je vous laisse les dire. Donc, d'abord, le 14 février.
Le 14 février, pour un parcours Alpha Duo, donc des jeunes qui ne sont pas encore mariés, pas encore engagés, au CCU de Rangueil. Donc, vous trouvez la référence donc sur parcoursalphatoulouse@gmail. Enfin, vous pouvez trouver parcoursalphaduotoulouse@gmail.com. Voilà. Et un parcours alpha couple qui va démarrer le 11 mars au couvent des Clarisses. Voilà. Et vous pouvez aussi vous adresser à parcoursalphatoulouse@gmail.com.
Merci beaucoup d'être venu ce matin nous parler de cette grande aventure d'Alpha, grande aventure de par le monde, mais qui rejoint aussi notre région et au plus près des réalités de chacun, entre autres voilà cette réalité de la vie de couple et c'est toutes ces bonnes occasions, comme peut-être la Saint-Valentin, de prendre soin de ce dernier. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.